Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et oui, nous vous retrouvons aujourd'hui, Franck Ferrand, direct de Valmorel. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Nous avons pris de l'altitude aujourd'hui, puisqu'effectivement, nous sommes au cœur de la belle, de l'harmonieuse station de Valmorel à l'occasion de la rentrée des neiges. Pour tout vous dire, tout à l'heure, à midi, nous avons inauguré, nous avons baptisé une piste bleue de Valmorel qui maintenant s'appelle la piste Europe 1. Nous essayons depuis deux jours de joindre l'utile à l'agréable et tel que vous me voyez, j'en suis à ma troisième raclette, vous n'allez pas me reconnaître Céline. L'hiver, la montagne, le ski, les stations des Alpes, voici l'univers que je vous propose en ce début d'après-midi. Nous sommes en compagnie de Marc Menant, qui est touchus en permanence et sous le regard du Père Noël qui s'est accordé un peu de répit à Valmorel.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ferrand.
Bonjour Sébastien Delru, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le directeur de l'office de tourisme de Valmorel. Vous êtes un peu la mémoire des lieux ici. C'est une station pas comme les autres. Vous avez essayé de m'expliquer ça tout à l'heure et j'avoue que j'ai été assez convaincu.
Ah oui, alors bonjour Franck. Effectivement, on est ravis déjà de vous accueillir ici. Alors, effectivement, Valmorel est une station pas comme les autres, qui a une histoire particulière, station de quatrième génération, qui est née en 1976 et qui a beaucoup évolué, mais qui reste un petit peu avec son architecture tellement spécifique, et puisque construit après les autres, et donc avec un certain nombre d'atouts déjà pris en compte. Et puis Valmorel aujourd'hui, comme on en parlait ensemble tout à l'heure, Valmorel qui rebondit avec une deuxième jeunesse et un tas de nouveautés qui arrivent aujourd'hui.
Alors évidemment, nous faisons ici une émission d'histoire, et tout à l'heure je vais raconter les origines du ski. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très très ancien, puisque vous allez voir que les hommes préhistoriques déjà utilisaient les ancêtres des skis. La station où nous sommes aujourd'hui, même si elle a, on a l'impression d'être dans un de ces villages des Alpes vieux de toute une éternité, en vérité c'est une station récente, voire très récente.
Oui, très récente, étonnamment, parce que Valmorel s'est créé effectivement, on le disait, en 76.
1976. Hein, Saint-Maurice, c'est 1876, par exemple, mais là, c'est 1976.
Exactement. Mais par contre, un petit peu en bas, aux Avanchés et à Doucy, qui est sur l'autre côté en face, historiquement, il y a toujours eu beaucoup, beaucoup de ski. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de promoteurs qui sont revenus, même avant d'aller plus loin en parenthèse, sans concrétiser les choses.
Alors, vous savez, moi, j'ai une passion pour les vues, les paysages et les panoramas. Et j'avoue qu'ici, on en prend plein la vue. Au détour de la route, on a constamment des ouvertures, des bas-côtés, des terrasses à partir desquelles vous n'avez qu'à vous laisser happer par ce paysage montagnard dont nous allons voir dans un instant, Marc, qu'il a longtemps fait peur aux êtres humains.
C'était la terreur, c'était le monde des dieux. Pensez déjà les caprices du temps. Et puis de temps en temps, ces grondements, c'était les manifestations de l'au-delà. Les hommes avaient sans doute péché et c'était le son des avalanches. Et par conséquent, il n'était pas question d'oser s'affranchir de ces endroits.
C'est-à-dire que, comme l'océan, la haute montagne était considérée comme une sorte de domaine interdit pendant très longtemps.
C'était vraiment le repère des dieux, vraiment.
Et le repère des dieux, un peu aussi, disons-le, le repère des brigands, puisque lorsqu'on voulait échapper à la justice des hommes notamment, il était assez pratique d'essayer de monter dans cette...
Forcément, puisqu'il y avait cette terreur qui empêchait les uns et les autres de s'y rendre. Donc le brigand qui avait cette audace se trouvait protégé naturellement.
Il m'arrive de raconter, évidemment, un certain nombre d'exploits montagnards historiques. Je pense, évidemment, au franchissement des Alpes par Hannibal. Je pense à celui de François Ier qui, la veille de Marignan, arrive à faire passer comme ça plusieurs dizaines de milliers d'hommes par un
col des Alpes. Napoléon,
plus tard Napoléon, mais Napoléon, on est déjà dans une première, dans un premier apprivoisement de la montagne. On ne réalise pas à quel point franchir certains cols ou les faire franchir à des armées dans des siècles reculés était considéré comme un exploit. On allait tutoyer les dieux et surtout on se mettait en danger.
Et n'oublions pas les vêtements dont on dispose. Parce que dans l'épopée que vous allez évoquer aujourd'hui, il y a bien évidemment l'histoire du ski. il y a les planches en tant que telles, mais il y a surtout comment se prémunir contre ce froid qui vient vous tarauder, qui est là, pervers, il s'immisce en vous, il vous glace les doigts, rend impossible le moindre effort. Mais oui, et c'est là, on a un foisonnement. Donc d'un côté, il y a les sportifs, mais pour que ceux-ci puissent accomplir l'exploit, il va falloir imaginez tous les équipements, qu'ils soient mécaniques pour monter sur la montagne, mais surtout aussi pour être dans un confort qui vaille l'effort.
Et ce confort, il est notamment ici à Valmorel, destiné à rendre plus agréable la vie des familles. Il y a une dimension très familiale dans votre station, Sébastien Delouis.
Effectivement, on vient même de recevoir un prix, hein, la meilleure station là, pour les familles, justement au World Snow Award le 1er novembre dernier. Et effectivement, à aujourd'hui, hein, on essaye tous de donner un maximum de services. Alors le gros mot qui est la convenance, justement, pour rendre facile tout ce qui se passe en montagne, ça doit être un petit peu comme dans une bulle, on profite de tout sans avoir l'impression d'être réellement en montagne, de profiter des joies de la montagne.
Alors je vais vous raconter maintenant l'histoire du ski, si vous le voulez bien, et puis du ski, nous en viendrons tout naturellement aux stations de ski, et avec vous Marc, on essaiera de voir comment tout ça est né, comment tout ça a pris corps, on va dire dans la deuxième moitié du 19e siècle essentiellement.
Voilà, hein. Et puis, mais c'est cette époque formidable, parce qu'il y a la montagne qui va être conquise, et puis c'est ce bouillonnement technologique. Avec les voitures, les premiers avions, on a déjà eu l'opportunité d'en parler.
N'est-ce pas, quelle belle époque ! Nous arrivons dans un instant à ces hommes préhistoriques montés sur des skis.
Sur Europe 1 avec un extrait de La Panthère Rose. Et nous partons avec vous, Franck Ferrand, à la découverte des origines du ski.
Alors vous savez, Céline, que La Panthère Rose, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette musique ? Parce qu'il y a toute une partie de ce film, qui est un film mythique des années 60, que moi je revois toujours sans me lasser, qui se passe justement dans ces sports d'hiver, à leur acmé, à leur apogée. On était dans ces années 60 où l'on aimait les fuseaux de couleurs flashy, où l'on aimait justement, où on commençait à redécouvrir cet art de vivre de la montagne, Marc. C'était, quand je parlais tout à l'heure de raclette et de fondue, c'est cette grande époque.
Mais ça correspond aussi à l'explosion des exploits des skieurs français. Les Sœurs Guatchel, Annie Famoz, Isabelle Mire, Jean-Claude Killy et celui qui nous apporta la médaille d'or en descente et qui sera à l'origine d'Avoria, Jean Vernet, qui va dynamiser le ski en inventant la position de l'œuf.
Il y a quelques années, j'avais écrit un livre qui s'appelait La belle époque des sports d'hiver. J'en parle sans faire de publicité puisqu'il n'est plus disponible ce livre-là. Il ne me rapportera donc pas de droits d'auteur. Et je me rappelle avoir cité un curé qui a fait partie des tout premiers skieurs à la toute fin du 19e et au début du 20e siècle. C'était le curé de Sarcenas. Voilà ce qu'il écrivait. Ces choses-là se sentent, disait-il, et ne s'expliquent pas. Comment faire comprendre à ceux qui n'ont pas éprouvé ces impressions qu'on parte sur des champs de neige traînant aux pieds ces longs patins qui vous soutiennent à la surface de cette nappe immaculée et étincelante, qu'on gravisse péniblement les longues pentes presque verticales qui montent jusqu'au pied de la forêt, qu'on tombe et qu'on se relève pour retomber un peu plus loin, pour enfin arriver au sommet de la côte vertigineuse et que de là, après un moment d'arrêt, quand le cœur a cessé de battre à coups précipités sous l'effort de la montée, on se laisse aller, les yeux plongeant dans le vide, dans un glissement qui s'accélère, qui semble presque vous enlever du sol et vous donner les ailes de l'oiseau. On se dit, voilà un sport bien moderne. Et je suis désolé, mais c'est beaucoup plus vieux que ça. On sait maintenant, et depuis quelques décennies, que le ski était pratiqué par nos plus lointains ancêtres. Dans sa fameuse épopée du ski, ça c'est un livre fondateur, voilà ce qu'écrit Yves Balut. En se fondant sur de simples considérations de bon sens, l'homme n'a pas pu survivre en région neigeuse sans ses instruments. Il parle des skis, justement. Il faut admettre que ski et raquettes sont bien des inventions préhistorique. Alors, avant de parler des raquettes, avant de parler du ski, il évoque les chaussures déjà, car nos ancêtres très lointains du néolithique et même encore avant ça, dans ces régions montagneuses et dans ces régions neigeuses, portaient des espèces de chaussons en peau de bête. Le poil de la fourrure était porté au dehors. Ils ont, nous dit Balu, le double mérite de le protéger du froid et d'augmenter la surface portante. Ça, c'est toute la question. Dans un premier temps, il s'agit de marcher sur la neige en évitant le froid et sans s'enfoncer, si possible. Et puis, petit à petit, on va mettre à profit cette surface portante pour se laisser glisser, tout simplement. Et ça, c'est très vieux, puisque si vous en croyez certaines gravures rupestres, vous vous rendez compte qu'il y a des skis vraiment préhistoriques. Dans la bibliothèque de Christiania, à la fin du 19e siècle, on avait répertorié tous les éléments qui, à travers l'Europe, permettaient d'évoquer la plus grande ancienneté possible du ski. L'examen du mot ski dans les langues des différents peuples, un grand savant qui s'appelait Hansen, fournit une nouvelle preuve que ce patin vient de la région de l'Altaï. C'est ça l'origine géographique, si vous voulez, et historique. La première mention qu'on ait du ski en tant qu'invention, en tant qu'instrument, en tant qu'outil ou moyen de se déplacer, disons, elle apparaît chez Procope de Césarée. Je vous parlais l'autre jour de Procope de Césarée à propos de la vie de l'impératrice Théodora, mais il n'a pas parlé que des empereurs de Byzance, ce Procope, puisque il nous parle en 522 de notre ère, il décrit le skrid finnar, c'est-à-dire les finnois glissants. Il s'agit en fait de lapons qui utilisaient fictivement des skis pour avancer, pour faire la guerre. Strabon, en 20 avant Jésus-Christ, évoque des montagnards du versant méridional du Caucase qui, depuis des millénaires, avaient coutume de fixer à leurs pieds des sortes de tambourins en peau de bœuf. Quant à Xénophon, là on remonte carrément au 5e avant notre ère, il raconte que les Amérindiens chaussaient leurs chevaux de sacs de peau bourrés de laine, leur évitant ainsi de s'enfoncer jusqu'au ventre. Vous avez bien compris qu'il faut aller très loin à l'est et le plus au nord possible pour voir apparaître les véritables skis. Alors, on a plusieurs types de skis chez les hommes préhistoriques, si je puis dire. On a d'abord le ski dit arctique, qui était utilisé par les lapons. Ce ski-là était dépourvu de rainures. Parfois, il était doublé de peau et il mesurait au moins 2 mètres. Et on en a retrouvé de ces très, très anciens skis. Donc ça, c'est le ski arctique. Vous aviez le ski nordique, qui était essentiellement adapté au terrain plat et qui, donc, lui, pouvait être conçu moins pour la stabilité que pour la vitesse. Vous avez 2 skis différents dans le ski nordique. Le ski gauche est long et le ski droit est beaucoup plus court et il est recouvert lui aussi de peau afin de pouvoir faciliter les tournants, hein, tout simplement, et épouser les pentes. Et puis, le ski tel que nous le connaissons quasiment, qu'on appelle chez les archéologues le ski méridional, là, sa forme, ses dimensions sont à peu près celles d'aujourd'hui. Il est très long, ce ski méridional. Il date de la dernière période glaciaire et il permettait non seulement le transport des êtres humains, mais aussi le transport d'un certain nombre de charges, d'un certain nombre de ballots et d'objets à transporter. La découverte du ski moderne, celui que nous utilisons aujourd'hui, est beaucoup plus récente, quoique. Je me rappelle à l'époque justement où j'écrivais ce livre, j'avais été très surpris de découvrir que le ski date quand même de la fin du XVIIe siècle. Ce sont des paysans de toutes ces régions du Nord et de l'Est qui utilisaient ce ski. Voilà ce qu'on peut lire en 1689, sous la plume d'un voyageur. J'ai observé, 1689, hein, on est au milieu du règne de Louis XIV, j'ai observé en certains endroits de Krain en Slovénie, et particulièrement dans les environs d'Orsberg, une très curieuse invention inconnue en tout autre lieu, nous dit le voyageur. En hiver, lorsque le pays est recouvert de neige, les paysans descendent avec une incroyable rapidité les pentes des hautes montagnes. Ils utilisent de petites planches de faible épaisseur, longues de 5 chaussures et larges d'une chaussure. Ces planches sont relevées à leur extrémité, au milieu est déposée une courroie de cuir dans laquelle est enfilé le pied. Chaque pied est ainsi fixé à une planche et le paysan tient en main un fort bâton. Vous voyez, quand on va faire toute l'histoire de l'invention des bâtons de ski et tout ça, on a déjà un pieu en quelque sorte, on a déjà un premier bâton. Et le comte Freiherr von Walvasor nous dit, on est là à la toute fin du XVIIe siècle, et a décrit la forme, le mode de fabrication des skis, mais aussi la façon de s'en servir. Je le cite, « Le paysan tient dans ses mains un gros bâton qu'il passe sous son aisselle pour s'y appuyer en descendant les pentes. En fait, il glisse plutôt et vole même vers le bas. Debout sur ses planches, il s'appuie fermement sur son bâton et glisse à une telle vitesse que même les patineurs hollandais, qui évidemment étaient réputés pour leur extrême aisance sur la glace, que même les patineurs hollandais ne sauraient le rattraper à la course. » En un siècle environ, fin 17e, milieu, fin du 18e siècle, le ski va se diffuser dans plusieurs points d'Europe. Attention, le ski dont je parle n'est pas encore un loisir, bien entendu. Il est utilisé, encore une fois, comme un moyen de se déplacer dans des régions particulièrement hostiles. Ce sont les paysans scandinaves, surtout, qui vont en faire le principal usage. Ce sont, et ça c'est le cas de beaucoup d'inventions, ce sont aussi les soldats, ce sont les militaires. Les Norvégiens ont créé en 1689 un bataillon spécialisé qui va durer longtemps puisqu'il ne disparaîtra qu'au milieu du 19e siècle. Et en 1733, le premier lieutenant Heinrich Hermannsen rédige en allemand un manuel à l'usage des troupes à ski. Ce sont les ancêtres de nos chasseurs alpins.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous vous retrouvons, Franck Ferrand, direct de Valmorel, et on continue à découvrir avec vous, Franck, les origines du ski.
Alors, s'il y a un pays qu'il faut évoquer, bien entendu, c'est la Norvège. Vous savez, les Norvégiens ont joué un rôle essentiel dans la diffusion de cette pratique du ski. On est à la fin du XVIIIe siècle. Et là, on se met à utiliser le ski non seulement pour se battre et pour transporter divers objets, mais aussi pour voyager, pour avancer et pour se distraire. Ça, c'est une grande nouveauté, bien entendu. Yves Ballu nous dit, dans les pays alpins, les Norvégiens ont joué un rôle important, non seulement de leur propre initiative, mais aussi à la demande de personnalités locales, d'associations, de clubs alpins, voire de militaires comme instructeurs. Bientôt, ils vont s'imposer dans le monde entier comme les grands spécialistes du ski, et tous les pays concernés par son développement feront appel à des Norvégiens comme moniteurs. On parlera de la célèbre méthode Christiania, bien entendu, etc. La Norvège est en pointe, si je puis dire. Un journal local aux États-Unis, en 1840, parle de lames de bois employées sur la neige par des immigrés norvégiens dans la partie septentrionale de la côte atlantique. Les Norvégiens sont partout dès qu'on parle de ski au tournant du 19e siècle, bien entendu. La première confrontation, le premier concours de ski, si je puis dire, il aura lieu en Norvège, à Iversløkken, je sais pas comment ça se prononce, mais on va dire ça comme ça, en 1866. Et l'année suivante, donc, à Christiania, on fait une course qui fait 150 km de long. Un ski qui, du reste, s'apparente beaucoup plus à notre ski de fond d'aujourd'hui qu'au ski alpin, bien entendu. Alors, celui qui, en France, va populariser tout ça, le premier qui va surtout s'y intéresser, c'est un jeune homme qui s'appelle Henri Duhamel. Henri Duhamel va visiter, en 1878, ce qu'on appelle un peu par abus de langage l'exposition universelle. En fait, en 78, c'était pas une exposition universelle, c'était une exposition internationale qui se tenait sur le Champ de Mars à Paris. Et au stand du Canada, notre Henri, il a 25 ans à l'époque, remarque une paire de raquettes plus longues, plus larges que celles qu'il a essayées et qui sont terminées à l'arrière par une pointe effilée. Il les achète, il va commencer à s'en servir. Et puis, ça l'intéresse parce qu'il revient chez lui à Grenoble, hein, c'est ce qu'il faut vous dire, il est grenoblois. Et puis petit à petit, ce Henri Duhamel va se passionner pour cette affaire et il va chercher tous les skis existants, il va les essayer. Mais ce qui est évidemment la limite de son affaire, c'est qu'à chaque fois, il reçoit des skis sans le mode d'emploi. Et alors on passe des semaines entières à essayer de comprendre comment ça fonctionne, bien entendu. Il va rencontrer un jour, on est 11 ans après, on est donc en 1889, il rencontre le commissaire général du Grand-Duché de Finlande qui lui donne des documents, des photographies et même un petit ouvrage rédigé en français par un certain Reuter et qui va lui permettre de faire tout de suite des progrès. Il va tester les nouveaux skis qu'il vient d'acheter avec des amis et l'un d'eux, Laurie, nous dit « Il choisissait un terrain suffisamment pentu pas trop cependant. Il repérait ensuite un épicéa qui ne devait être ni trop mince ni trop gros. Son objectif ainsi fixé, il se laissait partir. Et lorsqu'il arrivait à l'arbre, il s'accrochait au passage pour s'arrêter. C'est dire que nous cherchions à éviter les vitesses excessives et que nous n'avions aucune idée de la technique tout en cherchant à en forger une. C'est un autre groupe d'amis des montagnards qui va lancer vraiment le ski en France. Le groupe en question s'appelle le Rocher Club. On est là en 1895 quand ses amis rencontrent un officier suédois qui leur parle de ski, qui leur en envoie une première paire. Alors là, toujours la même histoire. La paire de ski arrive sans instructeur et sans notice d'emploi. Donc les premiers essais, nous dit l'un d'eux, furent catastrophiques. On fait venir néanmoins d'autres paires. On essaie encore. Et en novembre 1895, à l'initiative de la section de l'Isère du Club Alpin Français, le Ski Club des Alpes est ouvert à toute personne désireuse de s'initier ou de se perfectionner dans la pratique du ski. La première sortie officielle en Savoie, elle aura lieu en 1896. Et alors là, à partir de là, c'est parti, si je puis dire. Celui qui va utiliser le ski à haute dose, ce sera un certain capitaine Clerc qu'on évoque souvent. Il est lui vraiment à l'origine de la création du bataillon de chasseurs alpins. Il achète d'abord une première paire de skis à Genève, puis sept autres. Il va remplacer sous les pieds de ses chasseurs les raquettes par des skis. Il va les entraîner et le premier grand concours de ski, il aura lieu sous la houlette de ce monsieur en 1907 à Montgenèvre. On peut dire qu'à ce moment-là, on est bien bien loin du tout premier ski. Parce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais le tout premier ski, il sera découvert en 1921 par deux Suédois qui s'appelaient Nilsson et Bertik. Le ski en question, il est découvert en Suède et d'après, il mesure 1,05 m. Et si l'on fait des études pour essayer de le dater, il semblerait que ce ski-là soit vieux, tenez-vous bien, de 6000 ans. Alors Marc Menant, j'ai cité les grands noms, Henri Duhamel, le capitaine Clerc, on est à Grenoble, à Montgenèvre. C'est bien là que le ski moderne, le ski de divertissement, le ski de compétition va naître sur un territoire français, non pas ni norvégien ni suédois.
Il y a aussi Saint-Moritz.
Et Saint-Moritz, oui, mais ça c'est pour les stations. Hein, vraiment.
Pour les stations, mais bien sûr. Et ce qui est formidable, c'est que les femmes encore sont pénalisées dans la grande aventure, parce qu'on exige d'elles... La chrétienté nous imprègne et on n'est pas une femme qui a droit à la liberté. On doit s'assigner à certaines tenues. Donc, quand elles sont sur les planches, l'homme déjà, vous l'avez dit, c'est acrobatique comme tentative. Mais elles doivent être en jupe. Et il y en a une que l'on aurait dû déjà évoquer, mais je crois qu'elle a dû apparaître dans quelques propos lorsque nous étions dans les grands aventuriers de l'aviation, c'est Marie Marvin. Oui. Et non seulement elle a été parmi celles qui ont osé les bonds en l'air, dans ces balbutiements empiriques, là encore, il n'y a pas de méthode, mais elle est la sportive accomplie dans tous les domaines. Et quand on lui dit qu'on peut glisser sur des planches, elle se précipite à la montagne et elle va oser changer de tissu, mettre... Au vestiaire, les robes est la première en pantalon sur les planches.
C'est nettement plus pratique. Dans un instant avec vous, nous revenons sur l'histoire des grandes stations des Alpes.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Cet après-midi au cœur de Valmorel, vous vous y trouvez Franck Ferrand à l'occasion de l'inauguration d'une piste Europe 1 et vous y êtes avec vos invités, notamment Marc Menant, écrivain et journaliste.
Et oui, c'est la rentrée des neiges ici à Valmorel. Alors, nous avons vu que le plus vieux ski du monde était suédois, que ceux qui ont popularisé le ski à la fin du 19e siècle étaient des Norvégiens, que c'est en France que vont se créer les premières vraies compétitions de ski, mais... Ah, ça me fait mal de dire ça, mais une fois de plus, ceux qui vont rendre les sports d'hiver attrayants et ceux qui vont les mettre à la mode, comme d'habitude, ce sont les Anglais.
Ah oui, ça, je vois que vous êtes décomposé, mon cher.
Mais non, mais c'est vrai.
Vous
c'est...
êtes plus blanc que la neige qui est actuellement sur les pistes.
C'est toujours les Anglais, toujours les Anglais.
Mais oui.
Ils sont les maîtres de l'art de vivre en Europe, il faut le dire.
mais c'est lié simplement au désir de fuir l'ennui. Ils ont la chance d'être aristocrates, d'avoir les moyens, et ils veulent bénéficier de ce progrès qui permet à l'homme d'être enfin dans la plénitude de ses moyens et intellectuels et physiques. Ils deviennent des hygiénistes. Ils ont ce désir.
On est là fin 18e, début 19e.
Voilà. Et disons qu'ils renouent aussi avec ce qui est le berceau de notre civilisation, à savoir les Grecs, ces corps sertis, ces statues qui s'animent, et comment on s'émerveille simplement du regard de l'autre. Mais il faut animer ces corps. Et c'est pour ça que l'on vient à la montagne. D'abord,
alors,
l'été.
On traverse la Manche, on s'installe sur le continent, alors ils vont découvrir la Côte d'Azur, ils vont découvrir ça, et ils passent l'été dans les Alpes, et voilà. Surtout, disons-le, en Suisse essentiellement.
En Engadine, ouais. Quand on lit Zweig et La pitié dangereuse, cette pièce formidable avec Edith qui est condamnée à la maladie et le médecin qui lui fait entrevoir la guérison si elle se rend en Engadine. L'Engadine, c'est Saint-Moritz et les Anglais, bien évidemment, vont respirer le grand air.
Davos, Zermatt, Saint-Moritz. Alors, il y a justement dans cette dernière bourgade de montagne un grand hôtel qui est tenu par un certain Johannes Badrout et c'est lui qui, on est à l'époque du Second Empire en France, se dit c'est quand même embêtant tous les ans de devoir fermer mon hôtel au mois d'octobre et de mettre la clé sous la porte jusqu'au mois d'avril ou mai suivant.
Et de voir les Anglais qui repartent la valise basse en se disant bon sang, on
avec
serait bien resté.
Avec leur livre sterling.
Voilà. Et donc le mieux c'est de leur dire ouvrons-nous à cette nouvelle audace des sensations. Il y a les premiers skis, il n'y a pas que les skis, il y a la luge qui deviendra le bobsleigh. Et encore plus fou à Saint-Moritz, on va oser, vous connaissez la passion des Anglais pour les chevaux, s'accrocher derrière ces étalons au grand galop sur la glace et on est sur ces planches, ça s'appelle le ski joring et ça existe encore aujourd'hui et on parie, il y a une sorte de PMU et ces grands aristocrates vont se fracasser parfois.
Alors il y a aussi bien sûr des patinoires, on joue au curling, il ne faut pas oublier que ce sont des Anglais quand même.
Là les sensations sont beaucoup plus subtiles. Le curling c'est cette espèce de billard sur glace où on lance d'énormes boules et on balaye au fur et à mesure pour qu'elle glisse jusqu'au point visé. Et comme on a mis une énergie minimum afin de ne point le dépasser, il faut donc faciliter la glisse avec ce petit balai ondoyant.
Il y a le patinage, vous avez parlé du skijoring, etc. Donc, ce qui est en train de se mettre en place dans les années 1890, c'est le goût pour une nouvelle activité qui va bientôt s'appeler, pas encore, ça viendra dans les années 20, mais en tout cas, qui un jour s'appellera les sports d'hiver. Les Anglais disent à toute l'Europe, mais vous savez, l'hiver, on peut aussi faire du sport, on peut s'amuser. La montagne est très belle, l'air est très pur. Venez, vous verrez, et les cheminées sont d'autant plus accueillantes.
Et c'est Chamonix qui sera, pour la France, disons, le bastion originel de ces sports d'hiver. Toujours avec les Anglais, parce que le Mont Blanc fait rêver. Puis il y a un Suisse qu'il ne faut pas oublier, c'est De Saussure.
Bien
lui,
sûr,
il est obsédé par... Voilà, il est obsédé par le Mont Blanc. Il aurait voulu être le premier là-haut. Il dépense des fortunes colossales.
Ça fait penser au voyage de Monsieur Perrichon de Labiche, n'est-ce pas ? Le Mont Blanc nous observait tranquille et majestueux, écrit Labiche sur le livre d'or de l'hôtel. Pas Labiche, écrit Perrichon sur le livre d'or de l'hôtel. Alors là, c'est encore, on est encore à mi-chemin entre les sports d'été et les sports d'hiver, entre l'alpinisme et les sports de montagne. Le ski ne s'impose, lui, que beaucoup plus tard.
Mais 1924, les premières Olympiades d'hiver, et c'est à Chamonix.
Oui, alors quand même, avant ça, c'est vrai qu'il y a eu, les tentatives, enfin le premier concours de Montgenèvre, là,
oui,
1907.
D'abord les militaires.
Hein, voilà, 1907.
Disons que là, on est dans votre glisse. Tout à l'heure, quand vous évoquiez les chasseurs alpins, il y a une nécessité de protéger les frontières et on se dit que ça serait quand même un avantage extraordinaire que de pouvoir dominer ces grandes étendues par lesquelles il peut y avoir des percées d'ennemis.
Alors l'aristocratie et les classes très privilégiées de France copient un peu leurs voisins anglais. Hein. On est à cette belle époque où une sorte de monde très élégant circule d'une station balnéaire à une station d'eau, à une station thermale. Mmh. Et puis de temps en temps, donc on vient à la montagne. Parmi les adepte des sports d'hiver. Il y a une certaine baronne de Rothschild, Noémie de Rothschild. Elle a l'habitude d'aller en Autriche pour ses vacances d'hiver, sauf que à partir de 1914, évidemment, on est en guerre contre les Allemands et elle ne veut plus entendre parler allemand. Alors elle dit, comme elle a des moyens, c'est la baronne de Rothschild, hein, ça aide, évidemment, elle a des moyens illimités. Elle dit, j'en ai assez de toutes ces stations où on parle allemand, fabriquez-moi en France une station de sport d'hiver française. Et elle envoie des espèces de missionnaires qui vont faire le tour des vallées des Alpes pour trouver le bon endroit pour créer de toutes pièces une station. Et la station, ça va être
Megève. Et alors, ce qui est intéressant, parce que là, on pourrait se dire, et c'est l'image qui parfois existe encore, d'un monde réservé aux plus nantis. Mais les paysans français, ceux qui occupaient ces espaces et qui tutoyaient la montagne à travers les activités fermières, il y avait bien évidemment le bois, mais l'élevage aussi, les fromages, eh bien, ceux-là vont vite s'inspirer de ces aristocrates et vont oser la grande glisse. Et ce sont eux qui seront les champions de demain, ceux qui vont révéler au monde ébahi ces grandes envolées dans ce monde improbable et qui tout de suite, je dirais, révèlent l'esprit de liberté. C'est-à-dire quand vous êtes sur une piste de ski, vous êtes un peu comme un oiseau aussi. Vous êtes dans des étendues qui semblent sans limite, avec cette griserie de la vitesse et cette capacité à être une sorte de gymnaste, un acrobate du quotidien. Et ça, bien évidemment, ça galvanise les uns et les autres.
Et ce qui est très étonnant, c'est que ce nouveau mode de sport, si je puis dire, va devenir un mode de vie. Et qu'après la Première Guerre mondiale, dans les années 20 et surtout dans les années 30, l'art de vivre à la neige et au ski va imprégner l'ensemble de la mode, de la façon de vivre. Ça va être le début des lunettes de soleil, des crèmes solaires, l'invention du fuseau.
Oui, c'est une nécessité. Parce que pour pouvoir vraiment profiter de ces étendues, on l'a tout à l'heure évoqué au début d'émission, le froid, il est là. On est dans la pénibilité. N'oublions pas, là encore, on peut faire un petit détour.
Je vous laisse la responsabilité de ce dernier terme.
c'est lorsque les hommes ont osé tenter de gagner les pôles, ils étaient complètement démunis. Et là, c'est la même situation. Mais comme il y a un plus grand nombre, il va falloir être très imaginatif pour trouver le moyen d'être dans le confort de l'effort. Alors, ça ce qui est formidable ici.
On ne va pas revenir sur les différentes méthodes de ski, le Christiania, la méthode Vorarlberg, la méthode de mise au point par Émile Allais qui va révolutionner complètement tout ça.
Et Émile Allais, il faut le citer parce qu'il y a des grands noms comme ça qui vont permettre de créer l'image. Sans image, il n'y a pas de dynamique. S'il n'y a pas de dynamique, on reste dans une marginalité. Là, vous faites rêver et ce rêve, il est accessible. À une époque où on a l'impression aujourd'hui d'être dans la vacuité, où plus rien n'emporte les individus, on a l'impression qu'on va se fracasser, que rien ne nous attend. Là, cette montagne va lever toutes les audaces et c'est ce qui va permettre la création des sports, des stations de sport d'hiver.
Puisque nous sommes en Savoie, on ne peut pas ne pas citer les skis Rossignol, bien entendu, une incroyable épopée.
Part d'un petit bonhomme qui, dans son coin, là aussi, se dit « mais c'est pas possible ». Alors, les chaussures, c'est déterminant, les attaches. Comment on va pouvoir être dans une sorte de rigidité sans risquer la fracture de la jambe, etc. Et il va être l'un des pionniers en la matière. Et il va avoir aussi, parce que parfois vous êtes un excellent inventeur, mais vous ne savez pas spécialement commercialiser. Et lui, il arrivera à conjuguer tout cela. Et ça aussi, c'est ce que l'on retrouve chez les grands champions. Tout à l'heure, on a donc Émile Allais. Il y aura après Henri Oreiller qui va marquer toute une génération qui va aboutir au ski moderne. Henri Oreiller, c'est un personnage à la fois fantasque, qui a tous les talents, qui est le funambule des neiges. Et puis un jour, quand il aura été champion, qu'il aura collectionné les médailles d'or, il va se lancer dans la course automobile. Malheureusement, là, le trépas va le happer. Mais il a fait rêver et surtout inspirer ceux qui vont donner au ski cette dimension qui est celle de l'exploit. Et Jean Vernet en sera le premier porteur en remportant la médaille d'or à Squaw Valley aux États-Unis et en inventant cette position de l'œuf qui permet de franchir les 100 km/h. C'était de l'inimaginable. Mais Vernet ne se contentera pas d'être un champion. Vernet, lorsqu'il revient, il est le héros Et tout de suite, il dit, nous allons faire, il est de Morzine, nous allons faire là-haut, sur les sommets, à Avoria, cette montagne vierge, nous allons faire l'une des plus belles stations.
Alors ça, c'est toute l'histoire des générations de stations. On a d'abord les stations villages, hein, dont on a dit quelques mots, puis deuxième génération Courchevel, et puis Méribel, et puis les Arcs, et puis Valmorel, bien entendu. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire est à Valmorel cet après-midi. Vous y êtes, Franck Ferrand, avec vos invités, l'écrivain et journaliste Marc Menant et Sébastien Delru, directeur de l'Office de tourisme de Valmorel.
Alors Sébastien Delru, nous allons venir dans un instant à l'histoire de Valmorel même. Il faut que nous repartions un peu en arrière pour voir comment peu à peu les Alpes se sont, comment pourrait-on dire, semées de nouvelles stations.
Chaque station apparaît et... Ce qui est formidable, c'est si on était dans la mentalité d'aujourd'hui, on verrait une sorte d'agression de ce monde naturel. Et pour autant, parce qu'ils sont fils de la montagne, les Vernets et autres, ils cherchent à ce qu'il y ait une osmose entre cet univers dans lequel l'homme va enfin évoluer en liberté. Il n'est pas question d'envisager... un monde sans cette harmonie, je dirais, écologique. Et alors, Valmorel va être la dernière de ces stations de la dernière.
On va venir tout à l'heure à Valmorel. Mais avant ça, on était donc dans un premier temps aux stations villages, aux lieux historiques. Je parlais de Megève tout à l'heure, de Chamonix, etc. Le problème de la plupart de ces stations, c'est qu'elles étaient en assez basse altitude, Sébastien Delru. Donc, on décide d'en construire qui vont se trouver beaucoup plus haut et même de plus en plus haut. Cette conquête de l'altitude va être la première des conquêtes. Des bâtisseurs de stations.
Effectivement, puisqu'il permet d'être ski au pied, ce soit pour partir, pour revenir et créer toute cette facilité attendue aujourd'hui.
Avec certains projets qui sont carrément des projets utopiques d'une certaine manière. Je pense à Méribel par exemple, où le principe théorique serait qu'on puisse ne jamais quitter les skis, sauf quasiment dans le salon du chalet, quoi. Mais enfin, sinon on est toujours ski au pied. On va essayer de tenir les voitures à l'écart et on essaie de mettre la station au service du ski et de la neige, en fait, c'est ça?
C'est ça, et petit à petit, les stations se sont vraiment dimensionnées. La Tarentaise en est un exemple, hein, avec les 3e, 4e génération.
Et qu'est-ce qu'on appelle 3e et 4e, alors quelle est cette distinction?
Alors justement, les 3e génération, ce sont les stations qui sont ce qu'on appelle intégrées, entre guillemets, et qui intègrent l'ensemble des problématiques, que ce soit l'arrivée, les véhicules, comment on fait pour se retrouver facilement sur les pistes et avoir l'ensemble des services dont on a besoin quand on est dans une station.
Des services et des agréments, bien entendu, parce qu'on va voir, je ne vais pas reprendre Les Bons Enfants, etc., Jean Cocteau, enfin la grande époque, on va multiplier les boîtes de nuit. Il y a des gens qui viennent au sport d'hiver dans les années 50, quasiment sans jamais mettre un ski au pied, hein, il faut le dire.
Oui, ça existe encore aujourd'hui, bien évidemment. Ce sont les fêtards qui sont à l'affût de toutes les opportunités. Pour eux, ce qui compte, c'est que les bulles soient là bien pétillantes et que, ma foi, la nuit soit effrénée. Mais au petit matin, dans les brumes, néanmoins, et les brouillards, certains osent les pistes. Et l'avantage de ces stations de 3e et 4e génération, c'est qu'effectivement, bien, ils sont dans un état qui favorise le slalom. Ils ont juste à mettre les skis et ils se lancent sur les pistes. C'est ça qui est formidable. On est dans un univers qui vous met en dehors du fastidieux quotidien. On est dans un monde de rêve, dans un monde de Père Noël. Et Valmorel va naître... L'idée vient très tôt de Valmorel, mais elle va buter sur l'aspect financier, parce que ça coûte très cher de faire apparaître comme ça des stations. Où trouver les budgets? Soit vous avez de richissimes mécènes, des gens qui se disent que ça va être rentable, et ici ça bute. Mais toute la vallée est en disponibilité, je dirais même en attente. Pourquoi? Parce que l'industrie en bas, elle est en train de crever. C'est la misère qui s'installe. Les enfants qui se détournent. Alors bon sang, on va la monter cette station? Et là, il va y avoir 11 communes qui vont se réunir dans une
sorte... On est à quelle époque, là, exactement?
Ben là, on est dans les années 70.
Ah, oui, c'est ça.
Et va y avoir un mathématicien, je puis dire, un agrégé de mathématiques qui s'appelait Claude Michel, qui va être élu président de ce district d'Aigues Blanches, qui regroupe 11 communes et qui va avoir la bonne idée de faire appel à un fonds de finances hollandais. Et ce fonds de finances, lui, il se dit, Claude Michel... Ils ont besoin non pas de bénéfices immédiats, mais de bénéfices à long terme. Parce que pour eux, l'argent gagné grâce à l'investissement, c'est des années plus tard qu'il doit venir, puisque nos bénéfices doivent permettre de payer des retraites à nos adhérents. Et ça va permettre d'envisager une station où on ne cherche pas à vendre de l'immobilier, mais être dans une dynamique d'espace.
Il y a une part réservée 66%, au locatif.
66%, c'est énorme.
Deux tiers.
Les deux tiers qui sont dans la location pour qu'on soit dans une sorte de mouvance de clients toujours différents et qui font que la station sera vivante et que l'on n'est pas dans la spéculation immobilière.
C'est donc un fonds d'investissement qui lance l'ensemble de l'opération. Ce qui doit être assez rare finalement, Sébastien Delrue, c'est qu'un seul ordonnateur, en quelque sorte, est à l'origine de l'ensemble du projet et de l'ensemble de la station.
Exactement, mais c'est ce qui a fait justement qu'on est passé de la troisième à la quatrième génération et on a ces stations qui, en plus d'être intégrées, était géré par une seule entité. Et c'était d'autant plus facile d'amener un tas de conveniences, d'avoir justement tous ces atouts, tous ces services à fournir aux clients, quand ils étaient gérés par la même personne. Puisque s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui est en opposition avec un autre service, tout est géré en même temps. Et donc là, il y a une certaine harmonie entre les ouvertures des hôtels, des appartements, de la location, en même temps des pistes, et tout est géré par la même personne. Donc c'est très très facile d'amener un maximum de services
aux touristes. Et ce qui est étonnant, c'est que tout ça est construit en même temps quasiment, de 76 à 78, 79, c'est ça ?
Très très vite. D'où cette unité architecturale.
Oui, mais alors, une unité architecturale, là il faut revenir là-dessus. J'avais parlé de Méribel tout à l'heure, je parlais de Charlotte Perriand, etc., cette recherche d'une espèce de design, de pureté de ligne, etc. Et puis ensuite, il y a quand même un exemple très célèbre qui est celui d'Avoria, où au contraire, on va essayer de fondre littéralement l'architecture.
Les premiers immeubles d'Avoria ont fait venir du bois du Canada. Vous imaginez le coût ? C'est-à-dire qu'on est dans une utopie incroyable.
L'idée de fusion avec le paysage.
Voilà.
Il faut que l'immeuble prolonge la crête de montagne, en fait. C'est ça.
Et que l'œil, en quelque sorte, soit sous le charme d'un univers où l'homme a pris en compte la nature, a épousé la nature.
Et là, on est encore dans tout à fait autre chose. Ici, à Valmorel, on est dans une architecture, entre guillemets, plus traditionnelle. On ne croirait jamais que tout ça date de 76-78, d'ailleurs, il faut le dire.
Non, mais effectivement.
C'est un peu l'inspiration d'Avoria, avouez quand même.
On est complètement d'accord, c'est dans l'évolution. La seule grande différence, c'est qu'ici, on est vraiment avec des chaînes à piétons.
C'est plus à taille humaine, si je puis dire, hein. On a l'impression.
Oui, ça a été créé comme ça, c'est-à-dire qu'il y a de quoi circuler, il y a vraiment des hameaux différents, mais c'est vrai qu'on se retrouve dans cette rue, et là il y a une vraie différence, cette vraie évolution, c'est que, et puis en plus on est dans les années 70, et c'est marrant parce que cette anecdote toujours de Pierre Diener, quand je le rencontre, l'architecte historique qui s'est occupé de Valmorel.
Pierre Diener. Il faut le citer, c'est le...
Oui, Pierre Diener, voilà. Qu'on rencontre et qui est encore venu la semaine dernière, vous voyez, récemment, puisqu'il est toujours là-dedans avec
Il est dans sa propre création, c'est formidable.
Oui, exactement, et donc justement cette rue qui est toujours enneigée, et je vous assure que au moment de Noël, enfin il faut le voir, Valmorel, rien qu'en photo, quand on regarde sur le site ce que ça donne, c'est vraiment intégré. Et puis on se retrouve dans cette rue qui est enneigée, où pour passer Noël, c'est le moment, c'est magique, quoi.
Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a les intentions, les rêves du départ, et malheureusement la réalité économique qui de temps en temps vient faire chanceler l'ensemble. Avoria est devenue une station où les immeubles qui étaient proscrits se sont dressés. Je ne sais pas s'ils sont majestueux, mais ils viennent toiser la montagne. Ici, c'est vrai qu'on est resté dans une plus grande harmonie. Mais originellement, Avoria est devenue ce que ceux qui l'avaient pensé ne voulaient surtout pas qu'elle soit.
Oui. Pour ce qui est de Valmorel, ça, c'était, j'ai envie de dire, la grande et la belle époque. Et puis, petit à petit... le projet initial perd un peu de son unité et de sa force.
L'évolution, le temps, naturellement. Donc effectivement, ça a été
fin des années 80 à peu près.
C'est ça, le fonds de pension qui forcément à un moment, avec l'immobilier qui forcément, le projet a vraiment été bien réalisé. Donc il y a des prix d'immobilier qui montaient, et au moment où vous avez l'impression sans doute qu'ils étaient arrivés à...
La saturation des bénéfices envisageables.
Sans doute, mais je pense, n'était pas à l'époque, ça ressemblait à ça.
Voilà.
Donc à un moment, un fonds de pension, et c'est bien sa nature même, a pris les bénéfices, et donc ça a été revendu, non plus un seul opérateur, mais deux, ce qui fait que les remontées mécaniques ont été reprises. Et par contre, il y a un opérateur historique, encore qu'il faut citer, Pierre et Vacances, qui est arrivé à Valmorel et qui faisait qu'il y avait une certaine unité quand même, puisque c'est Pierre et Vacances qui commercialisait l'ensemble de Valmorel, et c'était le fleuron, et donc il y avait toujours cette unité de Valmorel qui continuait. Et puis les lois fiscales, etc., tout ce qui s'est passé avec justement ces 66% d'appartements qui avaient été créés originellement pour qu'ils soient loués tout le temps. Puisque c'était une seule entité, tous les appartements étaient loués. Ça a été racheté par des propriétaires petit à petit. Ces propriétaires, naturellement, étaient ravis de venir avec un certain nombre d'incitations fiscales. Ces incitations fiscales, donc, qui étaient de temps, 9 ans, 11 ans, enfin, les classiques, plus la TVA. Donc, au bout d'une d'une génération, deux générations,
mais le projet perd un peu de sa force, évidemment, bah, de son
change,
intégrité.
Il change parce qu'après il y a un tas de propriétaires qui viennent, qui sont amoureux de Valmorel. On est la première station de Tarentaise, c'est très très facile d'accès. Ce qui fait qu'il y a un tas de propriétaires lyonnais, de grenoblois qui viennent et qui sont ravis de venir tous les week-ends. Après, on est presque dans un, effectivement, comme toutes les stations, dans un grand virage là où on essaie vraiment de.
D'avoir... Ça c'est votre travail à vous, Sébastien Delruy.
Au quotidien, au quotidien. Et donc gérer aujourd'hui dans ce qu'attendent les clients, quoi. Toujours la même chose. Ils viennent dans une bulle de rêve et c'est bien ça qu'ils viennent chercher.
C'est le côté, on n'est plus dans un village, on est dans deux grands clubs. Au départ, vous alliez à la montagne, vous rencontriez des autochtones et puis bon, c'était l'ambiance saucisson sous le bras, le fromage, etc.
Et le crapaud tout fin.
Voilà, et on a évacué les voitures, c'était les traîneaux, c'était un univers où tout était prévu. Le matin, vous sortiez de l'appartement avec vos skis, vous reveniez, le lit était fait. C'est-à-dire que les enfants, il y avait les clubs pour les accueillir. Et ça, dès l'âge de 2 ans jusqu'à 18 ans.
Ah. Mais alors c'est vrai que
vous avez été, on le disait tout à l'heure, élu meilleure station de ski familial au monde, au World Snow Awards. Là, c'était là en novembre.
Ah oui, le 1er novembre. et on ne boude pas notre plaisir, effectivement. Il y a un tas de plaisir. Mais aujourd'hui, ce qu'on essaie de créer avant tout, justement, avec tout ça, c'est une relation avec le client. Que ce soit quelqu'un qui s'approprie les lieux et qu'on avance ensemble sur le long terme. On est vraiment aujourd'hui dans une transparence totale et on essaie vraiment d'avancer là-dessus, d'offrir le maximum de plaisir aux gens, voilà, qui s'y retrouvent, qui y reviennent.
Merci beaucoup Sébastien Delruy. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'office de tourisme de Valmorel qui nous reçoit si bien et qui s'apprête à recevoir des combien d'ailleurs de visiteurs dans la saison là. Vous allez avoir combien de...
Alors, il y a beaucoup de manières de le dire. Il y a 650 000, voilà, c'est le forfait skieur.
Je rassure tout le monde, pas tous en même temps, bien entendu. Le domaine skiable sera ouvert probablement vendredi, le 19 décembre.
On ouvre le 19, et puis en plus avec des chutes de neige attendues, là, annoncées samedi. Donc, on espère avec une ouverture sous la neige pour passer à Noël en famille sous la neige, c'est magnifique.
Merci beaucoup, Marc Menant. Je rappelle que l'on peut aller lire votre dernier ouvrage, La laïcité dévoilée, sur votre site marcmenant.fr. Vous êtes vous-même un skieur, hein, ce que j'aurais peut-être dû commencer par dire tout à l'heure.
Je suis l'homme du fracas sur les pistes.
Voilà, l'homme du fracas. Je ne sais pas comment il faut interpréter ça.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez, Franck Ferrand, cet après-midi à la question d'Agnès. Elle nous envoie sa question sur le site internet d'Europe 1. Et je la cite. Bonjour Franck, quelles sont les origines de la fondue, de la raclette et de la tartiflette, trois plats caloriques que j'adore manger à la montagne?
Bah oui, il en faut des calories à la montagne. Alors, la fondue d'abord. C'est d'origine suisse. La fondue, ça viendrait précisément du canton de Fribourg. Vous savez, ce sont les bergers qui utilisaient les restants de fromage, le pain parfois un peu rassis pour faire cette fondue qui a été très vite plébiscité, hein. On peut dire que la fondue s'est peu à peu répandue, non seulement dans l'ensemble de la Suisse, mais dans toutes les régions frontalières et notamment en Savoie. En France, la recette de la fondue au fromage est attestée dans la littérature gastronomique depuis au moins 1651, puisqu'en 1651, le cuisinier François-Pierre de la Varenne détaille dans son recueil Le cuisinier François une recette à base de fromage fondu et de pain qu'il appelle le ramequin au fromage. C'est comme ça que ça s'appelle à l'époque. Mais on trouvera des recettes de fondue chez La Chapelle, chez Brias à Varin, etc. Alors pour ce qui est de la raclette au départ c'est un fromage originaire des montagnes suisses et là encore plus précisément du canton du Valais. Depuis le Moyen-Âge, les bergers suisses coupaient une meule de fromage en deux. Ils la présentaient par le côté ouvert bien sûr au feu de bois pour la faire fondre et pour la déguster fondue sur différents aliments qu'on faisait cuire dans les cendres en attendant les pommes de terre, n'est-ce pas? Il a fallu attendre le 19e siècle pour qu'apparaisse le mot raclette. À l'époque, avant ça, on parlait de fromage rôti. Il faut vous dire que certains situent l'origine du mot raclette à une exposition cantonale de 1909 où les meilleurs vins de la région étaient accompagnés, disait-on, de raclette. Quant à la tartiflette, alors là, ça c'est beaucoup, beaucoup plus récent. Ça, c'est une belle opération promotionnelle du syndicat interprofessionnel du Reblochon. Ça date des années 1980 et le terme même de tartiflette, ça vient de la variété de pommes de terre qu'on utilise pour la faire, hein, qu'on appelle la tartifle.